Bonjour à tous, c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale en hommage à Pierre Bruel. Pierre Bruel, une figure historique de Radio Présence, disparu ce jeudi 3 avril dernier. Pierre Bruel, une voix, une présence, une fidélité à toute épreuve. Il faisait partie de celles et ceux qui ont accompagné la radio depuis ses débuts, des premiers studios de Blagnac à ceux de la Dorade jusqu'à aujourd'hui rue des Feuillants. Passionné de théâtre, amoureux des mots, artisan de la radio, il a marqué des générations de bénévoles et d'auditeurs à travers ses émissions. Pour évoquer son parcours et partager quelques souvenirs, je suis aujourd'hui avec Louis-Marie Solaire, qui l'a bien connu. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Francky.
Alors, vous allez entendre quelques archives, bien sûr. Nous avons retrouvé des pépites, comme l'aurait fait Pierre, d'ailleurs. Portrait et contexte.
J'aime ces heures-là où les hommes ont l'air beurrés. Ils arrachent leur masque, exhibent leur porterie. Comme un papillon à la lueur des lampes, comme au confessionnal, comme au feu de la lampe.
Louis-Marie, vous qui êtes un ancien de la radio, on peut le dire ?
Oui, on peut le dire maintenant. Je ne le clash plus. C'est plus la peine de faire de la coquetterie. Non, il ne faut pas demander son âge.
Vous avez bien
connu. Surtout aux dames, mais bon, maintenant c'est fini.
Vous avez bien connu Pierre, puisque là, vous êtes là quasiment depuis le début. Vous avez connu Blagnac, vous aussi ?
J'ai connu Blagnac, mais pas la toute première époque de Blagnac, celle des aventuriers de la radio, celle pilotée par le père Berthuis, Bernard, qui était un personnage extraordinaire. Et je pense que s'il devait y avoir un podium pour Radio Présence, il y aurait Bernard Berthuis sur la première marche et juste sur la deuxième, Pierre.
Alors, Pierre Bruel, comment décrire sa place dans l'histoire de Radio Présence ?
Eh bien, dans l'histoire de Radio Présence, il a une place importante, primordiale, je ne sais pas comment la qualifier, parce que quand Bernard Berthuis a créé cette radio, les studios étaient dans le presbytère de l'église de Blagnac, où Bernard était le curé de l'église. Et au moment où les radios libres, c'est comme ça qu'on les appelait, on s'est rendu compte plus tard que l'adjectif ne convenait pas, mais toujours à cette époque-là, donc c'était en 81, l'explosion en 83, donc Radio Présence est apparue grâce à Bernard Berthuis. Et l'objectif, c'était de tenir l'antenne, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait émettre et il fallait raconter des choses. Et donc, il a réussi, Bernard Berthuis, à créer autour de lui une équipe. Et dans cette équipe, il y avait Pierre Bruel qui parlait évidemment de théâtre, on va y venir, mais qui parlait un peu de tout. Il fallait être à l'antenne et il était à l'antenne.
Il en prenait du temps d'antenne. Je ne sais plus combien de temps faisait son émission, mais je crois que c'était plusieurs heures.
Ah oui, il était largement au-dessus des 2 heures. Largement.
On va pas dire qu'il était bavard, mais il avait le mot facile.
Il était bavard et il avait cette emphase qu'on peut-être les gens de théâtre. Maintenant, je connais pas assez bien les gens de théâtre pour faire une comparaison, mais en tout cas, il était quelque chose qui ressemblait à un homme de théâtre de cette époque où on imagine les grandes déclamations ou déclarations en scène.
Alors, il a bien connu du coup le père Berthuis, on l'a dit, le fondateur de la radio. Est-ce que tu sais quelle relation il entretenait avec lui dans cet esprit des débuts finalement ?
Oh ben c'était des amis, même plus que des amis. Il lui faisait confiance, Bernard, à Pierre. Et puis, il était capable de le recentrer quand même, parce que Pierre Bruel avait eu la tendance à s'éparpiller quand même un peu. Il s'est lancé dans ses discours, dans ses envolées lyriques, et il fallait lui dire, bon, allez, reviens, et puis, certes, il faut être à l'antenne, il faut tenir l'antenne, il faut que ça dure, mais pas malgré tout à n'importe quel prix.
Les feux de la rampe.
Les feux de la rampe, quand la radio devient théâtre. Les feux de la rampe, en direct chaque samedi à 11h.
Et oui, c'était en direct chaque samedi à 11h, c'était même reprogrammé l'été. Il me semble que d'ailleurs, il ne partait pas en vacances pour assurer ses temps d'antenne pendant de nombreuses, très nombreuses années. Pierre Bruel, un incontournable, Les Feux de la Rampe. Alors c'était quoi cette émission, Les Feux de la Rampe ?
Ah, Les Feux de la Rampe, c'était sa passion, parce que le théâtre a toujours été la passion de Pierre Bruel. C'est un homme de théâtre. Il est monté sur les planches, d'ailleurs, alors, je connais peu ses performances. Moi, c'est surtout à la radio que je l'ai côtoyé. Mais toujours est-il qu'il était connu comme le loup blanc dans tous les théâtres, en particulier les théâtres toulousains. Chaque fois qu'il assistait à une pièce de théâtre, ben, il l'enregistrait. Il enregistrait le son, bien sûr. Il ne la filmait pas, et évidemment, il demandait les autorisations, mais il se mettait toujours au premier rang. Et ainsi pouvait capter la pièce dans son intégralité. Et après, il en parlait dans Les Feux de la Rampe. Les Feux de la Rampe, vous l'avez dit, tu l'as dit, on se tutoie, hein, Francky. Tu l'as dit, c'était une émission en direct. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à diffuser. Il fallait un technicien capable de suivre les conducteurs de Pierre, qui n'était pas toujours évident, hein, envoyer les sons, le faire parler, parce que même quand il parlait, même quand il présentait, il se mettait en scène. Il faut l'avoir vu s'enregistrer ou préparer ses émissions. À l'époque, il n'utilisait pas un chronomètre. Il utilisait, oui, parce qu'il fallait, pour lui, il disait qu'il devait parler 2 minutes par rapport à ce qu'il imaginait à faire à l'antenne. Donc, il n'utilisait pas de chronomètre, il utilisait des sabliers. Et des sabliers qui avaient différentes couleurs suivant la durée du temps qu'il chronométrait. Hein. Donc, il avait un sablier, un petit sablier avec une poudre ou une espèce de sel blanc, puis un autre rouge, puis un autre vert, puis un autre bleu. Parce que chacun d'entre eux représentait l'un 3 minutes, l'autre 2 minutes, 30 secondes. Et donc, il renversait ses sabliers devant lui quand il faisait les enregistrements. Et il savait à quel moment il devait s'arrêter. Alors, il pouvait même faire ça en direct.
Ouais, c'est incroyable. Mais j'ai souvenir qu'à chaque fois qu'il venait à la radio, d'ailleurs, il venait avec sa valise. Hein.
Ah oui, oui, oui. Bah, c'était plus... tu dis une valise, c'était peut-être même une malle.
Quoi. Oui, c'était une malle. Il avait tout un tas d'objets.
C'était
avec
gigantesque. Parce que comme il se mettait en scène... En fait, il se mettait en scène. Il mettait en scène Les Feux de la Rampe, son émission de théâtre. Et donc, il avait besoin d'accessoires.
Alors, c'est vrai qu'il faut rendre hommage aussi aux techniciens, souvent bénévoles, qui se rendaient disponibles le samedi matin. On a eu beaucoup d'étudiants qui ont d'ailleurs fait une belle carrière en radio. Thomas Armengo qui a travaillé, qui peut-être travaille encore à Sud Radio. Adrien Van Der Bosch qui était son grand ami et qui l'a assisté pendant de nombreuses années. On a eu Bernard, un de nos bénévoles. Et c'était dans des conditions, les conditions du direct avec tous les problèmes que ça peut comporter. Et c'est vrai que vous l'avez souligné, c'était une émission qui était extrêmement dure à réaliser. Parce qu'il y avait beaucoup de sons, quelquefois des sons d'une seconde
oui.
à lancer. Donc vous imaginez un temps de préparation très long. Et encore aujourd'hui, avec l'informatique, c'est relativement simple. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, il y a eu des cassettes, il y a eu des bandes. Bon, pour caler tout ça, c'était un vrai challenge pour les techniciens. Et on pouvait dire que quand on savait réaliser cette émission, c'est qu'on était un technicien aguerri.
C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il avait tous ses sons à passer, qui, comme tu l'as dit, pouvaient être très brefs. Mais imaginez à l'époque où on utilisait des cassettes ou des bandes magnétiques, voire des disques, des vinyles aussi, parce qu'il en utilisait. Il avait une collection monumentale de vinyles sur lesquels on retrouvait des comédiens qui disaient des textes. Il a une collection, elle doit être dans cette cave dont parlera tout à l'heure Éric Dupri, dans cette cave où il y avait... Un sommet de choses, c'était une caverne d'Ali Baba. Maintenant...
C'était un sujet avec sa femme. Hein,
non, mais elle n'en pouvait plus. Toujours est-il que, pour en revenir à la mise en onde, tout ça relevait de l'exploit pour les techniciens. Parce que non seulement il fallait mettre en onde, mais c'était bien sûr donc en direct. Donc pas la possibilité de revenir en arrière, de couper, de monter. Et puis c'était en direct le samedi matin. C'est-à-dire que la contrainte était... redoutable pour les techniciens, surtout que quand ils étaient bénévoles, il fallait être là tous les samedis matins. Alors si c'était un apostolat pour Pierre, ça ne l'était pas forcément pour les gens avec lesquels il travaillait. Et puis, ça pouvait être aussi pendant les vacances, et même les vacances d'été, c'était monumental cette émission.
D'autant que les enregistrements se passaient souvent le vendredi soir, donc il fallait faire les montages soit le vendredi soir, soit le samedi matin avant l'émission.
Oui.
En suivant les indications de Pierre, c'est peut-être là le plus, difficile. Il faut parler le Pierre Bruel. Moi j'ai appris à le parler. J'ai eu un peu de mal au début, mais à la fin je pense que j'étais presque bilingue. Mais il fallait suivre ses indications. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'il avait des conducteurs d'antenne incroyables. Vous les avez bien connus, Louis-Marie.
Non,
pour en dire un mot tout à l'heure.
Non, pas les conducteurs. C'est dommage qu'on n'ait pas... Là, pour le coup, il faudrait pouvoir voir les conducteurs, même pas les lire, juste les voir.
Alors, je vous propose un petit extrait, justement, du début d'une de ces émissions. On est en 2007.
Il est temps de retrouver Pierre Bruel sous les feux de la rampe. Bonjour, Pierre Bruel.
Et bonjour, Adrien Vandenbosch. Les feux de la rampe, c'est le magazine des actualités, des spectacles vivants et illustrés de façon sonore. C'est le spectacle fantasmé de tous les spectacles vivants. Alors, musica. Et c'est parti! Et merci à vous toutes et à vous tous qui nous êtes fidèles. Et puis, comme on dit dans le pays de Tchaïkovski, Dabrupajalavat, si vous préférez bien venir voir, rendre visite, ou encore Milosti Prosim. Si, mot à mot, bonne grâce, faveur, nous vous demandons, comme on dit en Russie, au pays de Tchaïkovski. Autrement dit, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent sur les 97.9, du moins pour Toulouse.
Ah, il faisait bien le boulot, hein. C'était quand même un sacré personnage. Hein.
Il avait, quand je dis qu'il avait une diction qui venait peut-être d'une autre époque, d'un autre temps, de derrière du fond d'une pièce de théâtre, d'un théâtre, c'était assez extraordinaire.
Puis c'était tout un spectacle, hein, je me souviens, qu'il fallait voir les gestes et l'animation qu'il y avait en studio. On avait d'ailleurs, pour les techniciens, beaucoup de mal à le contenir, à lui dire « Pierre, ne parle ni trop fort, ni trop près, ni trop loin du micro, reste bien en face, parce que ça bougeait énormément.
Ah, » c'est le moins qu'on puisse dire, ça remuait beaucoup, même quand il avait des invités, il n'en revenait pas.
Alors, Pierre Bruel, ce n'était pas seulement un homme de radio, vous l'avez un peu évoqué, il était aussi sur le terrain pour enregistrer les spectacles et les faire découvrir quelques extraits aux auditeurs, avec du matériel quand même assez professionnel. Je me souviens ce qu'il m'avait montré au début où je suis arrivé à la radio, on était en 2006, et justement il avait besoin de conseils pour arriver à s'en sortir, je dirais. Et je me souviens effectivement de son gros micro, vous imaginez,
oui.
Il faut des câbles, il faut un enregistreur. À l'époque, on était sur mini-disque et le chargeur de pile, enfin bon, tout ce qui allait avec. Et c'était assez compliqué parce que, allez, on peut le dire, Pierre et la technique, je crois que ça faisait vraiment deux. Hein. C'était pas du tout son truc.
Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire, mais néanmoins, comme tu l'as souligné, il avait un matériel plutôt... plutôt performant et en tout cas adéquate pour faire ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire, hein, j'en parlais, enregistrer les spectacles, les spectacles vivants, les pièces de théâtre dans leur intégralité. On lui permettait de le faire, ce qui était assez extraordinaire, parce qu'il était très connu par les gens de théâtre pour être monté sur les planches. Et je crois, je ne sais pas, alors je ne veux pas dire de bêtises, et si j'en dis, eh bien, nous aurons des appels. Mais il me semble qu'il a fait partie de ce qui correspondait un peu au cinéma à l'avance sur recette, et il a fait partie du comité qui permet d'aider au financement du montage d'un spectacle ou d'une pièce de théâtre. En fait, il était chez lui pratiquement partout en ce qui concerne le théâtre.
Tout le monde le connaissait, et puis il avait parfois quelques difficultés. J'ai souvenir, moi, qu'il a eu quelques refus des fois. Maintenant, vous ne pouvez pas enregistrer le spectacle, monsieur, mais il passait quand même discrètement. Et puis, au dernier moment, il sortait son micro, parfois sous le manteau, pour pouvoir ramener du son pour son émission qui avait souvent lieu le lendemain. Alors, pas du tout doué, effectivement, pour la technique. Et pourtant, il y arrivait. Alors, qu'est-ce que ça dit de lui, ça ?
C'est son obstination, quoi. En fait, ce qu'il aimait, c'est le spectacle lui-même. Et il aimait en parler, il aimait en faire la promotion. Il aimait pouvoir faire aimer. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Il voulait partager cet amour avec les auditeurs, avec ceux qui l'écoutaient. Et c'est pour ça qu'il essayait de faire à la radio ce qu'on pourrait voir sur une scène de théâtre. Alors, il n'y avait pas l'image, mais il y avait tout le son qui allait avec. On parlait de ce qu'il était quand il était proche du théâtre et de ce qu'il faisait. Et il a rencontré un nombre incalculable d'acteurs. C'est tellement... Et puis des acteurs et des actrices, des comédiens et des comédiennes prestigieux. Et j'ai eu l'occasion de faire un entretien avec lui. C'était Pierre Etex. Pierre Etex qui était un homme, surtout un homme de cirque, du spectacle vivant, mais plutôt un homme de cirque. Il se définissait lui-même d'ailleurs comme un master clown. Et il était à l'invitation de la Cinémathèque à Toulouse pour une programmation concernant son travail au cinéma, ce qu'il avait fait au cinéma, puisque Pierre Etex a réalisé des films dans lesquels il jouait. Et donc, j'ai dit à Pierre que j'avais la possibilité de rencontrer Pierre Etex. Alors évidemment, il est venu. Et donc, nous étions trois, parce que Eric Dupri, qui a pris sa suite aux commandes des Feux de la Rampe, était avec nous aussi. Donc, on était tous les trois. Et évidemment, c'est Pierre qui a commencé l'entretien. On était en 2012. Et en 2012, on utilisait déjà des appareils numériques. Mais lui, il devait toujours avoir un appareil analogique à bande. Probablement, j'ai pas fait attention parce qu'il avait tellement de choses dans son sac que j'ai pas regardé l'appareil dont il disposait. Alors il a dit bon, ben alors on commence, et ça a donné ça.
Alors pour moi, tout comme moi, mardi 5 avril 2011, la Cinémathèque entretient à bâton rompu avec Pierre Etex. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pierre Etex, si je vous pose comme première question, ex abrupto, si je vous dis Napoléon, les auditeurs, les auditrices de Radio Présence, tant de l'ouvreuse, tant du Feu de la Rome, vont dire ce Pierre Bruel, il pète les plombs. Pourquoi il pose une question sur Napoléon? Mais j'ai envie de vous poser cette question quand même. Si je vous dis Napoléon, le petit Napoléon, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Pierre Etex?
Absolument, absolument. C'est parti sur une idée de Jean-Claude Carrière qui m'a apporté un jour une série de quelques dessins concernant l'empereur, qui était assez cocasse, je dois dire, et l'idée est venue d'en faire un livre. Il me dit que j'apporterai des idées, tu pourras les contester, tu pourras faire d'autres choses. Bref, on a fait un travail commun.
Voilà.
Il est rigolo votre extrait, parce que ça me fait rappeler les nombreux messages. Parce que Pierre et la communication, c'était aussi quelque chose.
Oui.
Parce que j'ai souvenir que quand il appelait la radio, si ça ne répondait pas, il envoyait un téléx à l'époque. Et,
oui.
Et en fait, il multipliait tous les canaux de communication possibles. Et à chaque fois qu'il nous laissait un message, c'était ultra détaillé. Pierre Bruel, nous sommes le 18 mars 2007. Il est très exactement 17h31 à Toulouse. C'était extrêmement précis. Alors on l'a dit, Pierre, c'était vraiment un personnage. On se moquait gentiment de lui. Des fois, on le disait, parce qu'il avait un côté très rêveur et un peu décalé, un peu comme on l'appelait le professeur Tournesol, vous savez,
le
Tintin. C'est-à-dire
un
espèce de génie, finalement, mais qui est parfois compliqué à suivre. Moi, j'ai une anecdote assez rigolote que j'appelle l'anecdote de la pendulette. Parce qu'il vient me voir une fois, c'était une grande réunion à la radio, et il me fait « Mais Francky, j'ai un gros problème, il faut absolument que tu m'aides, j'ai un problème avec ma pendulette qui n'est pas à l'heure. » Alors bon, je dis « Oui, bien sûr Pierre, je vais regarder, on va jeter un œil. » Et puis alors pour moi, pendulette, je m'attendais à ce qu'il me sorte une montre plutôt ancienne. Et donc du coup, il me la sort pas tout de suite. Alors je commence à chercher finalement ce qu'il veut pour finalement me rendre compte au bout du compte qu'il me sort son téléphone portable qui n'était plus à l'heure. Mais voilà, c'est comme, vous voyez, petit à petit, apprendre à parler le Pierre Bruel.
Le donc Pierre Bruel, ouais.
Ça m'a fait beaucoup rire. C'était tout Pierre, ça.
C'est vrai qu'on s'attend à tout sauf à un téléphone quand on parle de pendulette.
Bah, c'était son univers. Et puis, pour reparler là, des conducteurs, il avait vraiment un sens du détail. Il fallait voir les conducteurs d'antenne qui faisaient des dizaines de pages avec des plein de polices différentes, de couleurs, du texte surligné, des tailles. C'était vraiment d'un détail inouï. Et j'ai souvenir aussi que parfois dans ces émissions, il trouvait des pépites. Alors pour les retrouver sur Internet, c'était parfois
c'est
difficile, parce que c'était plutôt des archives qu'il fallait numériser. Mais des fois, juste pour extraire une demi-seconde ou une seconde d'un comédien pour illustrer un propos, c'était incroyable.
Il était le fervent du détail. C'est-à-dire qu'il pensait ses émissions, je vais me répéter, mais comme un vrai spectacle. Et il voulait, quand il parlait d'un comédien ou d'une comédienne, mettre en lumière, mettre en valeur le talent de ces gens, de ces comédiens et ces comédiennes, qui pour la plupart, je me répète, mais il en a rencontré un nombre incalculable. En tout cas, c'était son idée à lui de cette perfection du spectacle qu'il pouvait livrer, parce que c'en était un, mais à l'antenne.
Puis alors j'ai souvenir que le moindre extrait était référencé. Hein. C'était l'extrait exact, on avait l'année, le comédien, les conditions de l'enregistrement, c'était incroyable. Alors nous, on avait une petite blague aussi en interne, c'est que Pierre Bruel, notamment quand il a commencé ses émissions sur les fables, on en parlera un petit peu plus tard, du coup, il fallait les monter et du coup, il fallait un technicien. Et allez, on va le dire, des fois, c'était un peu le bizutage de certains stagiaires à dire « Bon, tu vas monter les émissions de Pierre Bruel ». Mais en même temps, c'était assez formateur. La difficulté, c'est qu'effectivement, il fallait traduire les demandes de Pierre. Mais après, techniquement, finalement, le travail était relativement intéressant parce qu'il y avait beaucoup de matière à travailler, beaucoup de montage, beaucoup de mixage. Et ça pouvait donner quelque chose d'assez sympa.
Oui, et pour avoir travaillé avec lui un petit peu, à propos de ses fables, qui était son grand œuvre, en fait, je crois. Son objectif, c'était de mettre en onde, mettre en son l'intégralité des fables de La Fontaine. Et il y en a un nombre incalculable, plus pratiquement 300, je crois, de mémoire, hein, et dont il avait des enregistrements dits par des acteurs ou des actrices. Et pour arriver à la fable, il fallait une introduction, et puis après, il y avait une conclusion. Il fallait mettre la fable dans un contexte. Et le contexte, malgré les conducteurs ô combien détaillés de Pierre, on n'arrivait pas toujours à bien le comprendre.
Et alors, ces fables, il a fait cette émission pendant des années. Hein. On a au moins 5 ou 6 ans d'archives. Il faut savoir qu'il nous a trouvé des versions enregistrées qu'on ne trouvait pas sur Internet, et on va vous expliquer tout de suite comment on les a retrouvés. Yeah. Et c'est Jonathan, justement, vous savez, Jonathan, notre animateur des matinales.
Le matinaliste.
Voilà, qui s'y est collé, puisque Pierre lui a ramené un jour, je ne sais pas, peut-être une dizaine de vinyles, une édition incroyable sur les fables de La Fontaine. Seulement, voilà, nous, les vinyles à la radio, ça fait bien longtemps, malheureusement, qu'on n'en a plus. Donc, on a dû récupérer une vieille platine. et il a fallu numériser et nettoyer tout ça. Jonathan va nous raconter justement.
Alors en souvenir avec Pierre Bruel, c'était en 2017, à l'époque je n'étais que stagiaire à Radio Présence, et petite particularité, on sait que dans ses émissions sur les fables, il diffusait souvent des extraits de ses fables justement, et en guise de cadeau d'arrivée, j'ai dû numériser une dizaine de vinyles, donc à deux faces, recto, verso. Et donc, numériser des vinyles, vérifier qu'ils marchent, vérifier qu'ils soient bien en train d'être joués, hein, d'être lus, parce qu'on sait que le diamant saute et tout. Donc ça m'a pris 3 semaines de numériser tous les vinyles, face A, face B, avec les titres. Et en fait, je me suis rendu compte par curiosité que Pierre Bruel s'occupait de ses émissions. Et donc voilà, le petit souvenir de Pierre Bruel que j'ai, c'est ces heures et ces heures, ces jours, ces semaines à enregistrer, à numériser des vinyles pour ces émissions. Après, j'ai eu l'occasion d'enregistrer avec Pierre Bruel quelques émissions, pas beaucoup, puisque j'étais que stagiaire et après j'ai dû partir, mais voilà, Pierre Bruel toujours très énergique et très étonnant dans la façon de faire ses émissions. Moi, j'ai le souvenir qu'à la fin d'une émission, il a miaulé. Voilà, c'était assez particulier, mais on sait qu'avec avec Pierre Bruel, on s'ennuie rarement lors d'enregistrement d'émissions.
J'aime ces heures-là où les hommes ont l'air beurrés, ils arrachent leur masque, exhibent leur porterée. C'est comme un papillon à la lueur des lampes, comme au confessionnal, comme au feu de la rampe.
Alors, autre facette de Pierre Bruel, son amour des textes et de la littérature, avec cette émission justement qu'il a portée pendant des années, l'Instant Affable, qu'il a réalisé lui-même en venant en studio ici à Présence. Et puis, au fil des années, malheureusement, ça devenait plus difficile pour lui de venir, notamment de se déplacer, parce que Pierre n'avait pas le permis. On peut le dire.
Ah non, il n'avait pas le permis, il venait à la radio avec les transports en commun. Il habitait à Blagnac à l'époque.
Oui, et du coup, il a cherché des voix en fait pour illustrer ses fables. On a eu Marine de Charin, alors qui a appris à traduire finalement le Pierre Bruel, traduire ouais. les conducteurs. Et vous avez également, Louis-Marie, prêté votre voix.
Oui, à l'Instant Affable, et je recevais par mail ces fameux conducteurs, ces fameux et célèbres conducteurs. Et ce n'était pas toujours évident de voir de ce à quoi ils voulaient arriver. Hein. Et je m'en suis sorti, parce que finalement, tout y était indiqué, mais avec les polices dont vous avez parlé, qui étaient souvent différentes hein, des textes, les couleurs, la taille des polices aussi, c'était assez déroutant. Mais il écrivait le texte, et il fallait le dire comme il l'avait écrit. Il n'était pas possible de changer quoi que ce soit. Une fois, j'ai transformé un oncle en grand-père, et donc le neveu en petit-fils, parce que j'avais l'impression que c'était mieux dans le déroulé de l'histoire qu'il me demandait de lire, qui présentait donc la fable. Et il m'a dit non, j'ai mis oncle et neveu, ça sera oncle et neveu.
Ah, il fallait respecter à la virgule près. Moi, j'ai souvenir que souvent, je récupérais les éléments à droite, à gauche, et sur la base du conducteur, je devais monter tout ça. Et effectivement, je l'envoyais à Pierre, bien sûr, pour vérification. Et le moindre détail que j'avais omis sur le conducteur, il arrivait à relever. Mais des fois, des choses quasiment insignifiantes pour moi, il avait vraiment une oreille très aiguisée.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il écrivait son texte et je pense qu'il entendait ce qu'il voulait que ça soit à l'antenne. Et donc, à partir de ce moment-là, il était capable de trouver juste le petit truc qui faisait que ce n'était pas ce qu'il voulait vraiment. Et donc, il fallait le modifier. Il était un homme de l'art, et pointilleux, extrêmement pointilleux.
Autre témoignage aussi, celui d'Éric Dupri, aujourd'hui salarié de Radio Présence, qui avait d'ailleurs repris l'émission de Pierre, les Feux de la Rampe. Éric, est-ce que vous avez sous le coude, je pense, une ou deux anecdotes de Pierre que vous avez bien connues ?
Oui, alors je peux en raconter une, moi qui ai une quinzaine d'années maintenant, à l'époque justement où j'avais repris les Feux de la Rampe, où on avait même un petit peu co-animé ensemble durant quelques temps, j'étais allé chez lui. J'allais d'ailleurs à l'époque assez souvent chez lui et j'avais découvert ce qu'on pourrait appeler ses archives, ce qui ressemblerait plutôt à une caverne d'Ali Baba. C'était situé au sous-sol de son appartement à Blagnac. On y descendait par un escalier un petit peu en colimaçon. Alors déjà, il fallait bien regarder, on mettait les pieds dans l'escalier parce qu'il y avait des choses qui étaient déposées à l'intérieur des marches, dans le virage à l'intérieur. Donc première chose déjà, faire très attention en descendant parce qu'il y avait vraiment des risques de chute. Et d'ailleurs, lui-même, une fois, était tombé. Et quand on était en bas, il y avait des étagères qui étaient remplies de choses diverses et variées. Et c'était essentiellement ses enregistrements, certains datant des années 80 lorsqu'il avait commencé les Feux de la Rampe. Et là, il fallait à la fois regarder où on mettait les pieds, parce qu'il y avait risque de se prendre les pieds dans quelque chose et de chuter. Mais il fallait regarder aussi au-dessus de sa tête, parce qu'on pouvait prendre un objet qui était déposé sur l'étagère la plus haute. Voilà, c'était un capharnaüm pas possible.
C'était Lina à lui tout seul.
C'était un capharnaüm pas possible. Je ne sais pas d'ailleurs lui-même s'il s'y retrouvait, je ne pense pas. Et je me rappelle qu'il me disait à l'époque, de toute façon, quand j'arrêterai l'émission, après ma mort, parce que malheureusement est survenu récemment, tout ça partira à Lina. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais je doute que ça soit parti à l'INA. Mais il y avait des choses qui étaient inutilisables, je pense.
Ah, les archives de Pierre Bruel, oui, toute une histoire. Puis alors, il y avait des bandes, hein, des cassettes.
Il y avait des bandes passantes.
Ça allait jusqu'à ses débuts en radio.
Oui. Des choses, bon, qui avaient des qualités. Le son était d'une qualité, évidemment, assez médiocre, vous pouvez imaginer. Surtout qu'il enregistrait dans des conditions pas toujours très simples. Et je me rappelle aussi une anecdote, c'est que... Il y avait eu un comédien qui, à un moment donné, refusait que Pierre Bruel soit devant lui avec son gros micro, je reprends son terme, parce que ça, évidemment, ça le perturbait lorsqu'il était sur scène. Et d'autant plus, il me disait que parfois, Pierre s'endormait. Voilà. Donc, il peut y avoir des ronflements pendant les pièces.
Surtout qu'il était toujours au premier rang.
Il était toujours au premier rang, évidemment, pour capter le plus près possible. Et il se tenait, je me rappelle bien, les jambes écartées, le gros micro vers l'avant, comme ça, en direction du comédien, ce qui, effectivement, pour certains, pouvait être assez perturbant, en tout cas, j'imagine.
Go et c'est parti, comme dirait Pierre Bruel. Je me souviens bien de ce go. Et oui, Pierre Bruel, une voix familière, une présence fidèle, un passionné qui a donné sans compter à Radio Présence, un homme parfois déroutant, souvent surprenant, mais profondément attachant. Il n'était sans doute pas technicien, mais il savait faire entendre l'essentiel, la passion qu'il aimait partager. Aujourd'hui, c'est toute une page de l'histoire de Radio Présence qui se tourne, mais un esprit qui demeure. Celui du bénévolat, de sa curiosité et de l'amour du théâtre et de ses mots. A noter que nous profiterons de l'été pour rediffuser toute une intégrale de l'Instant Infâble, en quotidienne du coup cet été. Et puis pour vous donner un avant-goût, je vous propose une de ses fables qui s'intitule « Le renard et le bouc ». Merci Pierre, on ne t'oubliera pas.
L'instant affable, une escapade poétique contée par Pierre Bruel.
Celui que la tradition appelle Ésope aurait vécu du 7e au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est sans doute le premier fabuliste ayant écrit une fable intitulée « Le renard et le bouc ». Ah, le plaisir de vous dire un extrait d'une adaptation, d'une petite histoire imaginée il y a vraisemblablement, bon an mal an, 2718 ans. Un renard tomba dans un puits, puis un bouc, pressé par la soif, aperçut le renard et lui demanda si l'eau était bonne. Le renard affirma qu'elle était excellente. Le bouc descendit à l'étourdi. Le renard prit la parole et dit « J'ai un moyen pour peu que tu désires notre salut commun. Dresse tes cornes en l'air, je remonterai par là.
Après quoi, je te regarderai, je te ramènerai. Toi aussi. Le bouc lui fait la courte échelle. Renard se retourna et dit « Eh, camarade, si tu avais autant d'idées que de poils au menton, tu ne serais pas descendu sans réfléchir avant. » Phèdre, né en 14 avant Jésus-Christ, écrivit la même histoire en latin. Un renard s'était par mégarde laissé choir dans un puits. La margelle, trop haute, l'y retint. Un bouc vint dans le même endroit pour se désaltérer et demanda au renard si l'eau était douce et abondante. « Descends, ami, lui dit-il, elle est si bonne, et j'ai tant de plaisir à en boire que je ne puis m'en rassasier. » Le barbu, s'y précipite. Malheur au barbu. La fable d'aujourd'hui, tirée des fables choisies et mises en vers par Jean de La Fontaine, 1668, commence par « Capitaine Renard ». Le bonhomme La Fontaine aime affubler certains de ses animaux de titres aussi honorifiques que parodiques. Maître Corbeau, Maître Renard, on est dans le burlesque. Comme le héron était emmanché d'un long cou, le bouc est des plus hauts encornés, c'est-à-dire muni de cornes. Les cornes, éléments qui portent toujours à rire. Capitaine compagnie, on entend trottiner les deux compères. Ce bouc, myope, parle avec cette admirable sonorité. « Par ma barbe, dit l'autre, il est bon et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Puis notre fabuliste s'amuse avec les mots. « Or, adieu, je suis or. » Tonton Georges Brassens, nourri du bonhomme, ira même jusqu'à écrire dans le même esprit « Or de son or ».
Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde son or, or de son or, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous.
Mais c'est le grand Fabrice Lucchini qui nous dit la fable d'aujourd'hui.
Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc, des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc : « Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur, le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis, sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci, je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Le renard sort du puits, laisse son compagnon et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis or. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin.
L'instant affable est réalisé par Jonathan Botello. Robert Nesnos dirait le capitaine Jonathan.
Et l'instant affable est préparé et présenté par Pierre Bruel.
La prochaine fois, nous vous proposerons une autre promenade. Même lieu de rendez-vous et mêmes horaires.
Ou bien le jour ou la nuit que vous voulez et à l'heure de votre choix grâce au podcast de votre radio. Ou encore sur CD à commander.